Bonjour Mgr Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous retrouver au cœur de cette semaine bien chargée puisque depuis lundi, vous êtes avec vos frères évêques rassemblés en assemblée plénière au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors vous n'avez pas eu beaucoup de route à faire vous, mais il n'empêche que la semaine est bien occupée par les différentes séances de travail que vous avez avec tous les évêques de France. Il faut parler pour commencer de la rencontre avec le patriarche Bartholomée. Vous nous l'aviez annoncé la semaine dernière. Il était là dès lundi et c'est avec lui que les évêques de France ont ouvert leur assemblée. Il a marqué cette entrée de l'assemblée, ce démarrage de l'assemblée avec un discours très marqué. J'ai pas envie de dire pessimiste, mais quand même très réaliste et par moments assez rude sur une espèce d'état des lieux du monde qu'il vous a confié en fait.
C'était une rencontre extrêmement impressionnante. J'ai eu la joie d'aller l'accueillir à l'aéroport lundi à Tarbes, à l'atterrissage, et puis de l'accueillir au chalet épiscopal à Lourdes, et donc de pouvoir échanger avec lui. Et le discours qu'il a offert, je dirais, à la conférence des évêques le lendemain, et qui a été prolongé par une autre prise de parole significative à la fin de la messe que l'on a célébrée en milieu de journée, étaient deux prises de parole extrêmement fortes. Alors oui, sans concession sur l'état du monde, mais avec une très très grande hauteur spirituelle, et très grande profondeur théologique aussi. Et vraiment, c'était un moment extrêmement extrêmement fort. Et il faudra reprendre les éléments de ces discours, de ces prises de parole, parce qu'il y a vraiment matière à méditer, à réfléchir. Et parole engagée, parole très courageuse et très libre aussi. Qui parole d'un pasteur, d'un homme de Dieu et d'un pasteur d'église qui n'est pas piégé par des considérations mondaines ou politiques, ou politiques contraintes. Voilà, une parole libre, parole prophétique. Ça fait 34 ans qu'il est patriarche œcuménique pour toute l'orthodoxie. Et donc, c'est un homme qui aujourd'hui, si j'ose dire, a de la maturité et une vraie liberté intérieure et une vraie bonté aussi. C'est un homme très, très agréable dans la relation, très, très humble et vraiment un grand monsieur qui m'a beaucoup impressionné.
En l'ayant en face de vous, vous aviez vraiment un frère en Christ en face de vous?
Complètement. Et quand nous nous sommes dit au revoir, il m'a embrassé comme du bon pain en m'assurant, et c'était sincère, en me regardant droit dans les yeux, comme l'avait fait le pape Léon XIV au mois de juin dernier, vraiment droit dans les yeux et en me disant « Je vous assure, je vous promets que je vais prier pour vous et pour votre diocèse ». Et ça m'a touché sincèrement. Mmh. Et voilà, c'est une rencontre de pasteur d'église et de pasteur d'église, quoi.
Voilà, en tous les cas, c'est un discours que nous pourrons effectivement retravailler, aborder dans cette émission et pourquoi pas avec Gérard Crozat.
Ça vaudra la peine de le reprendre,
voilà,
vraiment.
Qui est responsable de la question de
l'œcuménisme. Y compris sur la question de l'unité de l'église.
Oui.
Et qu'il, en mentionnant la semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens au mois de janvier, en disant que c'est toutes les semaines qui devraient être semaines de prière pour l'unité des chrétiens et que la division des chrétiens devrait nous être à tous une immense souffrance et que c'est seulement dans la conscience de cette souffrance qu'on pourra progresser vers l'unité. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est un thème qui me tient très très profondément à cœur. Je ne cesse de citer ce verset du chapitre 17 de l'Évangile de Jean, la prière sacerdotale de Jésus, qu'il soit un, afin que le monde croit. Et j'ai été extrêmement sensible à ce que le patriarche Bartholomée a dit à ce sujet.
Dernière question sur ce thème de l'œcuménisme. Vous trouvez que on ne s'en préoccupe pas assez, que c'est une question qui n'est pas assez dans nos cœurs de chrétiens?
C'est absolument évident. On s'habitue, on en prend acte et on s'en fiche un peu d'être séparés. Alors, de ces séparations-là, qui remontent au XIe siècle pour la séparation des catholiques et des orthodoxes, qui est sur un chemin d'unification, mais qui n'est toujours pas atteinte, mais aussi la séparation avec les frères protestants depuis le XVIe siècle, mais aussi toutes nos séparations internes à l'Église catholique, y compris à l'intérieur d'une même communauté diocésaine ou paroissiale.
Mais c'est peut-être pour ça
l'idée de se supporter, de se tolérer, voilà, mais certainement pas de chercher vraiment l'unité. Et on aura tout un échange à propos des paroisses et du diocèse, mais c'est le même enjeu, la même question qui est derrière.
Donc c'est une question de foi.
C'est une question de foi en l'Église, une sainte catholique apostolique que le Christ a envoyée pour témoigner de lui et de sa bonne nouvelle. Et tant que nous sommes divisés, le message ne peut pas passer, ou en tout cas est entravé gravement par notre faute.
On prend vraiment la décision ensemble d'en reparler, vraiment de prendre le temps d'aborder à nouveau et de décortiquer ce discours dans nos émissions prochaines. Pendant cette assemblée, vous abordez beaucoup d'autres sujets. Vous avez parlé au cours de la semaine de l'enseignement catholique. Notamment, vous avez rencontré la nouvelle équipe de l'enseignement catholique.
Une nouvelle équipe, que ce soit l'évêque accompagnateur, Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, que Mgr Guillaume Prévost, le nouveau secrétaire général, et qui est venu avec deux de ses collaborateurs et qu'ils nous ont présenté leur analyse de la situation, leur feuille de route, les défis qu'ils identifient et la situation. En commençant par un propos un peu provocateur, en disant que l'école catholique va bien et va même très bien. Et que c'est là précisément la source de ces problèmes. Parce qu'elle va bien, elle a la confiance des parents qui envoient leurs enfants à l'école catholique. Et que cela suscite des tensions de la part des partenaires de l'école publique. Et l'école catholique a vraiment une belle marge de progression, etc., etc., et que ça suscite des difficultés, des tensions, que les inspections déclenchées par les polémiques, par les crises de l'année dernière, ou la crise de l'année dernière...
Et on en sait quelque chose dans notre diocèse de Tarbes.
Et on en sait quelque chose chez nous, permettent de mieux se connaître, parce qu'un des fonds du problème, c'est la méconnaissance des uns et des autres, avec des projections un peu d'a priori sur l'autre, et que grâce à ces inspections finalement déclenchées pour repérer les dysfonctionnements et les défaillances, eh bien, c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que les inspections d'académie constatent que l'école catholique fait du bon travail. Et finalement, les rapports sont bien plus positifs qu'imaginés par les uns et par les autres au départ. Et donc, c'est finalement bienfaisant. Alors, ce propos est un peu étonné parce qu'on est quand même un peu traumatisé de bien des choses. Et ensuite, il ne nie pas les problèmes énormes qui sont devant nous, les défis, qui sont des défis aussi de démographie en France, des enfants, de la jeunesse, etc. Les difficultés à recruter des enseignants, à recruter des chefs d'établissement. Bref, les défis qui sont considérables, mais avec une affirmation, c'est dans la mesure où l'école est profondément ancrée dans son identité spécifique.
Donc le caractère propre.
Caractère propre, qu'elle est réellement, qu'elle devient réellement l'école de tous, parce qu'elle est clairement identifiée, y compris par les responsables de l'État français, et qui savent à qui ils ont affaire. Et les familles, et les parents, et les différents partenaires savent à qui ils ont affaire. Et du coup, c'est l'école qui peut être réellement pour tous, dans une vraie liberté de la part de tous.
Alors, à une époque, on parlait à ce sujet-là d'une double vocation. On disait l'école catholique a deux vocations, celle de promouvoir son caractère propre, et puis une autre qui est celle d'être ouverte à tous, de manière vraiment très large. En fait, c'est une même vocation, c'est ça.
C'est sa définition. C'est pas l'école des cathos pour les cathos, c'est l'école des cathos pour tous. Et donc, il y a une manière catholique d'être tout à tous.
Est-ce que les responsables de l'enseignement catholique attendent aussi de vous, les évêques, de les encourager, de les accompagner dans leur engagement s'agissant de la lutte et de la prévention, de la prévention et de la lutte contre les abus ?
Alors, ils nous ont, la direction nationale, le secrétariat national, nous a bien invités à manifester notre soutien, nos encouragements aux chefs d'établissement des écoles catholiques de nos diocèses, ce qu'avec Mgr Lacombe, nous ne manquons pas de faire. Ouais. Et en effet, de continuer, parce qu'on n'a pas attendu cette année pour s'y mettre, et les écoles n'ont pas attendu cette année pour s'y mettre, mais de continuer d'être totalement engagés dans cette démarche de fond de toute l'Église, de faire de nos maisons des maisons sûres, pour reprendre une expression plus ou moins heureuse, mais qui dit ce qu'elle dit, et donc de former les différents acteurs de l'école à la lutte contre les abus, à la prévention et à l'éducation des jeunes, des enfants, à la vie affective et sexuelle, dans le respect de tous et de le faire de manière déterminée et continue. C'est un engagement long qui demande beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de temps aussi pour changer la culture finalement, et le regard et des façons de raisonner, des façons de réagir quand il y a un incident ou la démarche d'un enfant ou d'une famille. Et donc, c'est tout un univers qu'il faut faire évoluer. Et l'école n'a pas attendu, encore une fois, les événements de l'année dernière pour s'y engager. Et nos diocèses non plus. Et les uns et les autres, nous soutenons dans ce long combat, mais qu'il faut mener et que nous menons.
Dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, par exemple, vous êtes témoin que les chefs d'établissement, vraiment, ils y travaillent, qu'ils se forment, qu'ils s'engagent, qu'ils forment leurs équipes dans cette...
Oui, bien sûr. Et notre déléguée, Madame Anne Jarnot, pour la prévention, la formation, la lutte contre les abus, est complètement engagée auprès de la direction diocésaine de l'enseignement catholique et des chefs d'établissement, comme un partenaire habituel et ordinaire de cette formation.
Allez, on va continuer à parler de la vie de notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et puis la semaine prochaine, vous nous reparlerez à nouveau de l'Assemblée plénière, puisque les travaux ne sont pas terminés, les réflexions ne sont pas terminées au moment où on se parle. Je voudrais avec vous aborder un autre sujet aujourd'hui, Monseigneur, et mettre un petit peu les pieds dans le plat, si vous me le permettez. Le diocèse envoie régulièrement des appels aux dons, à tous les catholiques du diocèse. Alors on a compris que le diocèse a besoin d'argent pour le traitement des prêtres, la formation des séminaristes, la rémunération des laïcs qui travaillent pour l'église diocésaine. Mais depuis le 1er septembre, dans notre diocèse, et on en a parlé ici, dans cette émission plusieurs fois, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, des nouvelles missions, des nouveaux visages, des nouveaux postes. Alors des nouveaux postes, des nouvelles fonctions, mais des nouveaux postes de dépenses aussi. Et ici ou là, on peut entendre un petit peu la surprise. Comment, pourquoi le diocèse embauche-t-il à tour de bras, entre guillemets, alors que par ailleurs, il nous dit qu'il n'a pas d'argent?
Parce que jusqu'à présent, une grande partie des postes salariés du diocèse sont des postes administratifs, des postes de fonctionnement de l'administration diocésaine, et que pendant ce temps, la mission, elle, est en immense déficit de gens formés et réellement disponibles pour servir la mission du diocèse. Alors il y a bien sûr beaucoup de personnes bénévoles qui le font, à l'échelle des paroisses, à l'échelle des mouvements, à l'échelle des services aussi. Mais il faut... on a estimé qu'il fallait, avec le Conseil des affaires économiques, avec le Conseil épiscopal, avec le Conseil presbytéral, avec le Conseil diocésain de pastoral, qu'il fallait dédier quelques personnes pour réellement faire exister des attentions missionnaires et pastorales qui n'étaient plus assurées depuis un certain nombre d'années, depuis longtemps pour certaines. Or, nous sommes engagés dans une réforme qui nous met tous en état de mission. Et pour cela, l'ancienne architecture des services diocésains tels qu'ils ont fonctionné pendant des décennies, mais qui ne fonctionnait plus, il n'y a plus de pastoral familial dans le diocèse, il n'y a plus au niveau du diocèse lui-même de coordination de la formation, de la préparation au mariage, il n'y a plus de pastoral des vocations, il n'y a plus de responsable de la pastorale des jeunes même, et bien d'autres pans entiers de l'attention pastorale et missionnaire qu'un diocèse doit porter et doit servir. Et donc, au lieu de chercher à recréer des services diocésains que l'on ne peut plus créer selon l'architecture ancienne, avec un prêtre, un laïc ou une laïque responsable, bénévole ou partiellement salarié, eh bien, on a décidé de créer ces trois grands pôles missionnaires et pour ces pôles de recruter deux personnes, la troisième étant un diacre, il n'est pas salarié, et donc la personne qui coordonne le pôle annonce de la foi est un salarié, une création de poste en effet. Et la personne du pôle formation, la formation, elle est réclamée à corps et à cri depuis des années. Le service de la formation existait dans le diocèse jusqu'à il y a 13 ans et puis a disparu. Et donc il fallait relancer un pôle de formation, c'est requis plus que jamais et demandé. Toutes les assemblées diocésaines demandent de la formation.
Et vous l'avez beaucoup entendu pendant les visites pastorales.
Je l'ai entendu dans toutes les visites pastorales et donc on a créé là aussi un poste de coordinatrice pour le pôle de la formation et du soutien de la vie spirituelle et chrétienne du diocèse. Alors évidemment, j'ai entendu, hein, et je comprends complètement, une certaine incompréhension dans des paroisses, parce que il y a une situation de déséquilibre extrêmement importante. J'ai demandé à ce que les chiffres soient publics, à la disposition de tout le monde, et à la dernière Assemblée Générale de l'Association diocésaine. Ils ont été communiqués, ils sont à la disposition de qui le souhaite auprès de leur paroisse et des conseils économiques des paroisses. Et donc, une situation de déséquilibre considérable, qui est fondée sur une culture assez ancienne dans le diocèse, mais pas seulement dans le diocèse. En parlant avec mon frère évêque, je constate que c'est le cas dans beaucoup d'endroits, où on demande à la structure diocésaine d'assumer toutes les charges, et aux paroisses, bien, pendant ce temps, elles ont des réserves financières extrêmement importantes qui dorment et qui ne servent pas. Moralement, ce que les gens donnent à l'Église, c'est pour le service de la mission de l'Église. C'est pas pour gonfler les comptes en banque. Bon. Et donc, dans la réforme globale du diocèse, il y a une réforme de cette philosophie qui consiste à permettre aux paroisses pauvres qui n'ont pas de moyens parce que leur géographie, leur sociologie ne leur donne pas des moyens, de pouvoir bénéficier du soutien du diocèse pour soutenir des attentions pastorales et missionnaires qu'ils n'ont pas les moyens de s'assurer sur place. Alors les paroisses les plus riches, elles râlent un petit peu parce que forcément elles contribuent parce qu'elles ont les moyens de le faire pour elles-mêmes et qu'aujourd'hui elles sont invitées à contribuer à donner au diocèse le moyen de soutenir des paroisses qui, elles, n'en ont pas les moyens. Et je me suis fait la réflexion en entendant les petits reproches, ou des grands reproches, ou des critiques, ou des incompréhensions formulées, que c'est un petit peu comme la Grande-Bretagne qui a décidé de sortir de l'Europe parce qu'on leur a expliqué qu'ils contribuaient beaucoup plus à la caisse commune qu'ils n'en recevaient, ce qui était déjà faux. Mais cela dit, quand bien même ce serait vrai, le principe d'une mutualisation, c'est que les forts soutiennent les faibles. Et donc j'assume complètement cette philosophie, qui est une philosophie chrétienne et évangélique, qu'en effet, les forts doivent soutenir les faibles. Et à l'échelle du diocèse, ça passe par une contribution financière des paroisses qui ont des ressources vers les paroisses qui n'en ont pas, à travers l'équilibrage diocésain qui a créé 2,5 postes de nouveaux salariés pris en charge par le diocèse. Mais ces postes pris en charge par le diocèse, ils sont au service des paroisses. De toute façon, ils sont au service des paroisses et au service de la mission des paroisses. Pas de l'administration des paroisses, mais réellement du soutien de la mission. Et c'est vraiment cela que je veux enclencher dans le diocèse, c'est qu'on se mette en posture missionnaire. Et les 2,5 personnes qui ont été recrutées se sont mises au travail. Et déjà, ça fonctionne très très bien, je trouve. Voilà, je pense que tout le monde finira par bien se rendre compte qu'en effet, les personnes recrutées sont à leur service. Et si elles ne sont pas salariées par les paroisses qui en ont les moyens, elles sont salariées par le diocèse, grâce aux paroisses qui en ont les moyens, c'est évident, mais qu'elles sont au service de tous, y compris des plus pauvres parmi nous.
Ça ne veut pas dire que le service qui va être porté, proposé, qui est déjà enclenché, donc l'annonce, la diaconie, la formation, l'accompagnement dans la vie sacramentelle et spirituelle, ça ne va pas être lissé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que d'un territoire à un autre, d'une paroisse à une autre, les réalités, les besoins ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes.
C'est à chaque paroisse d'apprécier, d'estimer ce qui est nécessaire pour sa paroisse. Mais le fait d'avoir un service diocésain, une coordination diocésaine, permet de mettre en commun les bonnes idées des uns et les bonnes idées ou les expériences des autres, de relayer ce qui nous vient du Saint-Siège ou de la conférence des évêques, de pouvoir relayer une invitation à participer à une journée provinciale, ce qui ne se faisait pas. Depuis que je suis là, j'ai participé à beaucoup de journées provinciales, où notre diocèse brillait par son absence, faute d'avoir des relais locaux qui peuvent transmettre l'invitation, etc. Donc ça ne va pas. Voilà. La réforme vise à nous réinsérer dans l'Église de la province de France et universelle, beaucoup plus et beaucoup mieux, et à soutenir les acteurs de la mission dans nos paroisses, y compris les paroisses qui n'ont pas les moyens d'avoir par elles-mêmes ces acteurs-là.
Pardon, une dernière question, et après je vous laisse repartir avec vos frères évêques, Monseigneur Mika. Quand je vous entends, je me dis qu'on est quand même toujours dans un schéma où il y a le diocèse et les paroisses. Or, les paroisses, c'est le diocèse. Enfin, pourquoi on a l'impression
Et le diocèse, c'est les paroisses. Tous les services du diocèse sont au service des paroisses. L'économe diocésain, ce n'est pas l'inspecteur des impôts ou le percepteur qui prend les sous des paroisses, le méchant percepteur qui prend les sous des paroisses. Il est au service de la vie des paroisses. Il soutient les paroisses de conseils à la fois juridiques, financiers, de placement. Et d'ailleurs, l'équipe de l'économa avec Madame Fabienne Maisonave, Marie Dubarry et l'économe, bien évidemment, Patrice Maury et puis quelques autres, sont appréciés réellement dans les paroisses parce qu'ils sont perçus comme de réels soutiens, supports. Ce n'est pas des inspecteurs qui passent et qui demandent des comptes de manière suspicieuse, mais qui réellement sont un support et un soutien de la part du diocèse pour la mission, pour la mission. C'est cela qu'il ne faut cesser de répéter. Pour la mission que l'on doit porter ensemble et de manière solidaire dans une famille où les forts soutiennent les faibles.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika, d'avoir bien voulu répondre à cette question un petit peu provocatrice, mais voilà.
J'aime y répondre de manière passionnée parce que c'est passionnant.
C'était important. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Anne-Rose, et bonne semaine à tous.